À la fin de son évangile, Jean nous rapporte un entretien de Jésus avec ses disciples qui va du chapitre 14 au chapitre 17. Et ce discours, on peut aussi l'appeler le discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Dans l'extrait que nous venons d'écouter, je voudrais relever deux phrases qui ont servi de base à la méditation de ce matin. La première est celle-ci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et voici la seconde. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Jésus fait ce discours parce qu'il sait que son heure est arrivée. Son ministère terrestre s'achève et au moment du récit, nous sommes jeudi soir. Et demain, vendredi, il sait qu'ils vont être séparés et qu'il va partir. Mais avant son départ, il a encore des choses très importantes à leur dire. Il faut qu'il les rassure, qu'il les console, et surtout qu'il leur explique la raison du départ. Car ils sont désorientés par cette annonce. Pour eux, ce départ est incompréhensible. Leur univers s'écroule. Ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Et ils entrevoyaient un avenir radieux, un royaume rétabli, une souveraineté reconquise. Mais l'attitude qu'ils ont et les questions qu'ils posent prouvent l'ampleur de leur désarroi. En premier, nous avons Judas qui, pour forcer Jésus à s'affirmer, le trahit. Nous avons Pierre qui demande « Où vas-tu ?» Et lorsque Jésus lui répond « Vous savez où je vais ?» Et vous en connaissez le chemin. Alors c'est Thomas qui proteste. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Pourtant, Jésus leur avait bien dit qu'il allait préparer une place dans la demeure du Père. Et nous avons aussi la question de Jude. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître au monde? Que tu te feras connaître à nous et pas au monde. Permettez que je reprenne. Et nous avons la question de Jude, lorsqu'il dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et pas au monde? Parce que cette question représente justement ce qui pour eux est incompréhensible. Et nous confirme qu'ils attendaient un Messie qui serait un roi terrestre, roi d'Israël terrestre. Donc pour eux c'était clair, Jésus devait se manifester publiquement et glorieusement. Enfin, c'est ce qu'ils avaient compris. Et c'est pourquoi ils ne savent plus que penser. Et ce qui augmente leurs inquiétudes et ajoute à leur confusion, c'est que Jésus leur dit qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. Là, les disciples sont complètement déboussolés et surtout désorientés, car tout s'écroule. Un trouble profond les préoccupe. Alors Jésus va les rassurer et surtout leur expliquer le sens des événements. Pourtant, Jésus lui-même est dans l'angoisse, n'est-ce pas? Il sait ce qu'il y a devant lui. Il connaît les épreuves qui l'attendent et qui lui restent à subir. Il y a le jardin de Gethsémani, le reniement de Pierre, les moqueries, la flagellation, la croix, l'abandon et la fuite des disciples, même l'abandon momentané du Père, hein, lorsqu'il dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tout ça, c'est ce qu'il attend. Mais cette horreur qu'il attend donc et qu'il perçoit est si grande qu'il demande à son Père s'il n'y avait pas une autre possibilité, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de lui. Marc, dans son évangile, nous dit qu'il fait cette demande trois fois, tout en précisant bien dans sa prière que ce soit la volonté du Père qui se fasse et non la sienne. Luc nous précise même que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Donc il était aussi lui-même dans l'angoisse. Mais malgré cela, et malgré cette angoisse terrible, rien de son état personnel n'influence son action vis-à-vis des siens, car il maîtrise les événements, même s'il les subit. C'est pour ça qu'il est venu. Alors avec amour, avec patience et une grande délicatesse, il va les rassurer, les calmer, et surtout leur donner le moyen de lui faire confiance. Il commence à leur faire remarquer, et c'est très important, qu'il leur dit les choses avant qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, ils se souviendront de ces paroles et croiront. Par cette annonce, il leur donne là une preuve irréfutable qu'il possède la connaissance et qu'il dit la vérité. Par exemple, lorsqu'il dit à Pierre qu'il va le renier trois fois et qu'il précise même avant que le coq chante. Et effectivement, lorsque le coq a chanté, Pierre peut constater qu'il l'a renié trois fois. Il leur dit aussi que le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, qu'ils le feront mourir, mais que le troisième jour, il ressuscitera. Ensuite, il va leur demander de croire en lui, en leur disant, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Le message qu'il révèle par ces mots est que celui qui garde sa parole sera aimé du Père. Et nous viendrons à lui, dit-il, et nous ferons notre demeure chez lui. Merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Qui s'accomplira, d'ailleurs, à la venue du Saint-Esprit. Mais par ces paroles, Jésus nous présente un Dieu proche, tout proche de nous, et surtout un Dieu d'amour. Tout le contraire d'un Dieu lointain et redoutable. Nous avons aussi la remarque de Jésus à Philippe, lorsque celui-ci lui demande de voir le Père, Jésus répond, « Mais celui qui m'a vu, a vu le Père. » Dans cet échange avec Philippe, il semble que Jésus est un peu déçu par leur manque de réflexion, et lorsqu'il lui réplique, « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu ?» C'est un reproche qu'il fait. Mais il y a plus grave, au verset 7, lorsqu'il dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc, ça veut dire qu'il ne le connaissait pas. Alors, on peut en déduire d'après ce que Jésus dit, que lorsqu'il parcourait la Palestine, le Père était là. Lorsqu'il guérissait et enseignait, le Père était là. Lorsque Jésus pleurait de compassion devant les proches de Lazare, le Père était là. Lorsqu'il était dans la barque sur le lac déchaîné, le Père était là. Partout où Jésus était, le Père était là. Mais les disciples n'en avaient pas conscience, car la présence physique de Jésus leur suffisait. C'est pourquoi il leur dit qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. Ils ne saisissent pas le sens de cette déclaration, même lorsqu'il leur précise que cela lui permettra d'envoyer le Consolateur. Dans son discours, Jésus revient souvent sur son départ, mais en précisant « et je reviens à vous ». Et c'est ce « je reviens à vous » qu'ils n'ont pas saisi non plus et qui provoque leur tristesse. Et c'est pourquoi il leur dit « si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi ». Il faut remarquer la façon délicate par laquelle Jésus essaie de leur faire comprendre qu'ils devraient se réjouir de son retour auprès du Père, ce qui lui permettra de rentrer en possession de la gloire éternelle qu'il avait de toute éternité, et aussi de retrouver toutes les prérogatives divines qu'il avait en communion étroite avec son Père. Je reviens sur l'expression « si vous m'aimiez » qui est très dure à entendre. « Si vous m'aimiez ». Ce conditionnel dérange. Parce qu'il suppose un évident manque d'amour. « Si vous m'aimiez », ça veut donc dire « vous ne m'aimez pas ». Et dans le texte, nous avons relevé deux conditionnels. Le premier, c'était « si vous me connaissiez, si vous m'aimiez ». Mais Jésus connaît bien les lacunes de leur connaissance. Et nous, nous savons, par la suite des récits, qu'elles seront comblées par la venue du Saint-Esprit. Donc l'apôtre Paul nous confirme catégoriquement la divinité de notre Seigneur lorsqu'il dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 6, « existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Nous comprenons maintenant le sens de « il est avantageux que je m'en aille, car il reviendra en nous, avec le Père, par la venue du Saint-Esprit qu'il nous enverra. » Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne se manifestait qu'épisodiquement sur les personnes. Mais maintenant, nous avons la promesse de Christ, qu'il vient habiter dans chaque croyant. C'est ce que Paul nous confirme et nous assure lorsqu'il nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Voilà cette paix que Jésus nous donne. Nous n'avons qu'à la saisir. Avec elle, nous avons la sérénité de la grâce et la certitude du salut. Alors, gardons ses commandements par amour pour lui, et nous aurons la joie d'avoir sa présence en nous pour toujours. Et surtout, ne perdons pas de vue le prix qu'il a payé. car sans son sacrifice, le Père n'aurait pas pu nous pardonner et nous donner la vie éternelle. Il est à noter que cette paix, une fois acquise, a la puissance de transformer les vies. Merveilleux. On peut comparer l'attitude des disciples avant la Pentecôte et leur attitude après la venue du Saint-Esprit. Nous avons par exemple l'exemple du changement de comportement de Pierre dans le livre des Actes, n'est-ce pas, où on lit qu'il est condamné à mort, lié de deux chaînes, et il nous est dit qu'il dormait entre deux soldats. Dormait entre deux soldats tout en étant condamné à mort. Il était devenu confiant. Hein. On a aussi l'exemple, par exemple, sur le chemin de Damas, où Jésus a fait d'un de ses ennemis les plus acharnés, un de ses défenseurs les plus zélés, Paul. Mais avec ce discours, nous avons pu constater que cette période avait été très difficile à traverser pour les disciples. Au moment du récit, ils étaient dans une situation floue, imprécise. Pour eux, c'était l'obscurité, l'incertitude, le doute même. C'est pourquoi Jésus leur prédit les événements qui allaient se réaliser plus tard, sa résurrection, ses apparitions, la venue du Saint-Esprit. Car nous savons que ces événements se sont effectivement produits, mais quand ils se sont produits, ils ont quand même eu de la difficulté à croire. Ils ont eu de la difficulté à admettre sa résurrection, ses apparitions. Par contre, quand ils ont compris, la lumière ne les a plus quittés. Alors, qu'a voulu dire Jésus lorsqu'il dit « Je vous laisse la paix » et qu'il précise « Je vous donne ma paix ». C'est sa paix qu'il donne, pas une autre, sa paix. Aurait-il voulu dire que désormais la vie quotidienne sera un long fleuve tranquille ou un véritable lit de rose sans ombre ni nuage, hein, qu'il n'y aura plus de problèmes, ni d'épreuves d'aucune sorte? Ou s'il survenait quelques désagréments, il suffirait de prier en son nom pour que tout s'évanouisse, tout s'arrange? Mais ce serait une erreur d'interpréter cela de cette façon. Lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, et que nous gardons ses commandements, la vie quotidienne du chrétien reste toujours confrontée à de multiples problèmes, comme avant, et sur lesquels il n'a pas d'influence. La maladie, la mort, la société, la famille. Mais ce qui a changé, c'est sa façon de les surmonter, de les subir ou de les vivre. Désormais, le chrétien va supporter les épreuves avec confiance, parce qu'il sait qu'il n'est plus seul et que notre Seigneur l'aide à poursuivre sa route. Parce que nous avons maintenant la certitude que Dieu, par le Saint-Esprit qui est en nous, nous aide et nous soutient dans l'adversité. Et cela, Jésus nous le certifie. C'est pourquoi il nous dit aussi de ne pas laisser notre cœur se troubler ou s'alarmer. Car par la foi, cette certitude est notre bien et personne ne peut nous l'enlever. Sommes-nous inquiets pour quelque raison que ce soit? Avons-nous un sentiment d'échec? Ou conscience d'avoir quitté le chemin? Alors, bénissons Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui nous alerte. Souvenons-nous par exemple du roi David. Il s'est repenti après chacune de ses chutes. Mais il s'est retrouvé, à la fin de sa vie, beaucoup plus proche de Dieu qu'il ne l'a été au début de sa carrière. Suivons son exemple. Alors, si c'est nécessaire, retournons vite à Dieu. Inlassablement et patiemment, il nous attend. Son amour et sa grâce nous accueilleront toujours, car lui est fidèle. Gloire à Dieu. Amen.